Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr, désormais disponible en version filmée sur Journal du Golf TV, canal 187 sur Free et 193 sur Bouygues. Cette semaine, nous reviendrons évidemment sur cet incroyable Players Championship et le nouveau patron du golf mondial, Scotty Scheffler. Il y a plein de choses à dire, messieurs. Nous évoquerons évidemment le tournoi de la semaine sur le LPGA, le Series Pack Los Angeles Open. Et nous finirons cette émission avec Oyan Guillamundegui, auteur de son premier top 5 sur le Challenge Tour. Et avec moi pour animer cette émission, Benjamin Cadieu de Journal du Golf.
Salut Benjamin.
Et Romain Lefebvre de l'équipe.
Salut Arnaud.
Salut Benjamin.
Romain, que vous pouvez retrouver dans l'édition mercredi de l'équipe, une interview assez saisissante d'Arthur Cazot, le joueur de tennis victime d'un malaise. Je vous conseille de la lire. Remarquable interview. Bravo Romain, mais malheureusement ou heureusement, on n'est pas là pour parler de tennis, on est là pour parler de golf. Le Players, victoire de Scotty Scheffler, ça doit être un événement parce qu'il y avait un papier dans l'équipe. Donc pour qu'il y ait un papier golf dans l'équipe, c'est que c'est un événement, Romain.
Un papier en dehors des majeurs, effectivement. Oui, bah, c'est un événement parce que déjà, gagner deux fois le Players d'affilée, ça n'était jamais arrivé en 50 ans d'histoire. Donc c'est un événement. C'est aussi une manière de s'approcher timidement, mais sûrement, du Masters Augusta, le premier grand chelem de la saison, qui aura lieu dans maintenant trois semaines. On y est presque. Et puisque déjà, on a vu fleurir sur les réseaux sociaux le menu de Jon Rahm. Et quand le menu du tenant du titre apparaît sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'on n'est pas loin de la magie.
Magie qu'on avait déjà ce week-end, hein, aux Players, Benjamin, Scotty Scheffler... Impressionnant ouais. avec ce nouveau putter.
Ouais, le golf, c'est simple comme un changement de putter. Bah, il est passé de la lame Scotty Cameron à laquelle ça ne marchait mais plus du tout. Il était au-delà de la 160e place sur plein de stats de putting du PGA Tour, alors qu'il est toujours, même plus que jamais, le meilleur joueur du monde du tee au green et peut-être même le meilleur joueur de l'histoire pour taper dans une balle de golf.
Oh, attention, Benjamin. Ouh là là, attends, bah, attention, Benjamin. Vous
alors mais là, qui d'autre?
Bah, Tiger Woods.
Woods, il savait pas driver.
Vous savez,
non, j'exagère un poil.
Mais on y reviendra aussi. Il y a un petit quiz tout à l'heure. On verra bien.
Tiger
on verra
Woods
bien,
drivait super bien les années Bud Charmon, mais ensuite il drivait. Bon, il envoyait des
The gros Big
gros,
Miss.
Ouais, il envoyait des gros push slice à droite, un peu en contrôle pour pas exploser. Mais il avait ensuite un jeu de fer incroyable et un putting. On en parle même pas, mais. Je pense que du tee au green, j'ai pas connu Jack Nicklaus, Arnaud, oui, mais du tee au green, je pense que c'est le meilleur joueur de l'histoire.
On va y revenir dans le quiz, mais avant de revenir sur cette victoire de Scotty Scheffler avec Guillaume Biojo, notre envoyé spécial en Floride, on va d'abord analyser, comme chaque semaine, cette victoire avec notre consultant Louis Cohen-Boyer.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chronique Analyse de victoire pour le Journal du Golf. Cette semaine, nous allons donc analyser la deuxième victoire de suite de l'actuel numéro 1 mondial, Scotty Scheffler. Et oui, effectivement, c'est un deuxième succès de suite pour le joueur texan qui remporte donc deux tournois mythiques du PGA Tour, le Bay Invitational et le Players Championship. Il serait simple d'imaginer que Scotty a utilisé la même formule sur les deux dernières semaines pour gagner et pourtant, grâce aux statistiques données par le PGA Tour, on sait que ce n'est absolument pas le cas. Bien évidemment, ce qui avait fait du bruit durant le bail, c'était le changement de putter de Scotty. En adoptant le Spider Tour X de chez Taylor, il avait immédiatement gagné 5 points sur ce compartiment de jeu où il était un petit peu en difficulté depuis le début de l'année. Cette semaine, sa performance a été un petit peu moins extraordinaire, mais il a quand même été en positif sur le putting. Il a gagné 1,5 coup sur le reste du champ. Parlons maintenant des deux compartiments de jeu qu'il a améliorés comparé à la semaine du bail. Tout d'abord, son driving qui lui a rapporté plus de 6,5 points et qui lui a donné la première place sur ce compartiment de jeu durant le Players. La plus grande progression pour Scotty, ça a été sur son jeu de fer. Au bail, il avait gagné 3,5 points sur ce compartiment de jeu et la semaine passée, il a réussi à gagner 6,5 points. C'est énorme. Il a striké la balle de manière extraordinaire. C'est donc une performance qui ressemble énormément à la signature du jeu de Scotty Scheffler, un putting un tout petit peu moins bon et le reste du jeu qui est énorme sur ce tournoi qui demande évidemment aux joueurs de maîtriser leur balle de golf, ce tournoi qui est communément appelé le cinquième majeur de l'année.
Et d'un consultant, on passe à un autre consultant. Je vous l'ai dit, Guillaume Biojo était notre envoyé spécial, on l'a eu la semaine dernière dans ce podcast, et ben on le retrouve tout de suite à nouveau. Bonjour Guillaume. Guillaume, on vous a eu la semaine dernière, vous étiez déjà allé aux Players, mais là vous avez fait le dimanche, racontez-nous ce dimanche de folie, l'un des plus beaux de l'histoire en dehors des grands chelems pour beaucoup de gens.
Le player, c'est vraiment un endroit déjà Tipi-Sissograsse absolument magique, mythique, incroyable. Et bien évidemment, ce finish de fou avec un monde de, excusez-moi le terme, mais un monde de malades. Donc oui, c'était un moment fabuleux avec ce putt, bien évidemment, de Wyndham Clark qui pendant un moment est resté dans le trou et est ressorti. Scottie Scheffler qui est d'une solidité absolument hallucinante. Donc oui, c'était absolument incroyable.
Bonjour, il y a dans ce finish, on en parle beaucoup, on le voit à la télévision, c'est souvent là que ça se joue. Est-ce que quand on est un passionné de golf, mais surtout un joueur de golf, est-ce que c'est impressionnant? Est-ce qu'on se dit qu'on n'aimerait pas forcément être à leur place, que ce soit au deuxième coup du 16, effectivement, ou au départ du 17, compte tenu des conditions, de la vision qu'on a, du vent qui tourne beaucoup? Est-ce qu'on prend la mesure de ça quand on est dans le public?
Complètement, et oui, le vent il tourne énormément dans cet endroit-là, à cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les tribunes et on sent qu'il y a des drapeaux. En plus, c'est hyper intéressant parce qu'il y a des drapeaux qui sont en haut des tribunes et il y en a beaucoup. Et on voit que le vent ne va pas dans la même direction, donc c'est pas simple. Et surtout, pour répondre à ta question, plus précisément, j'y étais mardi et j'y étais dimanche. Et les deux fois, au départ du 17, j'étais vraiment collé au départ du 17. Et le mardi, quand il n'y a personne, et que le drapeau est en plein milieu parce que c'est la partie de reconnaissance, le trou fait pas forcément peur. Par contre, le dimanche, quand il y a le drapeau collé à droite et quand il y a cette foule énorme autour, et le coup est complètement différent. Donc, je dirais qu'effectivement, il y a cette difficulté de ce trou numéro 17 qui est ce green en île, mais qui est complètement différente entre l'entraînement au coin où on joue pour rien et le dimanche, principalement dans les dernières parties où on est à un ou deux points derrière. Est-ce qu'on va aller chercher ce drapeau au 17 qui est vraiment placé dans l'eau, hein, si je peux utiliser cette image. Donc oui, c'est vraiment très impressionnant pour le public, principalement quand on se met dans l'axe derrière du trou. Et je me répète, c'est très différent le mardi ou le dimanche.
Scottie Scheffler est parti pour régner pendant des années, Guillaume.
C'est toujours très difficile de prédire tout ça. Maintenant, je crois, et vous allez être bien meilleur que moi pour répondre à cette question, mais que depuis Tiger, il n'y a jamais eu autant d'écart entre le numéro 1 et le numéro 2 mondial. Gagner à Bay Hill la semaine dernière et gagner aux Players cette semaine, deux parcours qui sont très différents. Il survole le golf mondial, il survole le golf mondial. Donc, est-ce que ça va durer? Malheureusement, j'ai pas de boule de cristal, Arnaud, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a une domination complètement hallucinante, principalement au niveau du grand jeu. Les statistiques le prouvent, c'est du tee au green. C'est même son caddie qui connaît bien le golf, connaît très bien le golf, dit, j'ai l'impression d'être dans un, dans un, de jouer à la PlayStation. Donc, il maîtrise parfaitement son du tee au green et dès l'instant où il est
Sur le
assez chaud
game,
avec
il est
le public.
numéro un quasi partout, Guillaume, du tee au green, mais même sur les approches du green à 160 mètres, il est numéro un de vraiment du driver jusqu'au sand wedge, quoi.
Absolument,
Exagérant.
absolument. Et ce qui est complètement hallucinant, c'est que c'est pourtant le swing, quand on le regarde d'extérieur, qui fait, moi en tant qu'enseignant, c'est le swing qui pourrait au départ me faire le plus peur, dans la mesure où on sait que sa marque de fabrique, c'est cette perte d'équilibre quasiment au moment d'impact. On se demande tous, est-ce qu'à un moment il va même tomber? Mais on a vu quelques vidéos cette semaine, principalement avec il avait mal au cou, donc ça bougeait encore peut-être un peu plus. Et de temps en temps, il perd complètement l'équilibre avec le bas du corps. Et pourtant, c'est le joueur le plus précis de la planète. Donc c'est assez intéressant. Et je dirais que dès l'instant où le putter est chaud, on sait qu'il travaille maintenant avec Phil Canyon, ce coach de putting qui coach une grande partie des meilleurs joueurs du monde. Il a changé de putter ce week-end, depuis la semaine dernière. Donc on voit qu'il y a eu aussi un impact important. Mais dès que le putter fonctionne, il est imbattable. Donc est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, mais c'est très très impressionnant.
Justement, on reviendra sur son swing pour terminer, mais le principal changement sur Scheffler, c'est le meilleur joueur du monde du tee au green depuis 2 ans, mais il mettait pas un putt, enfin plus ça allait en 2023, moins ça allait au putting. Là,
Putter du PGA Tour, on peut le
ouais,
dire.
au Genesis, il était numéro 1 du tee au green, encore une fois, et dernier au putting. Là, il change de putter. Il a changé de façon de putter aussi. Avec ça, Guillaume, comment vous analysez ce changement de putter et sa technique et les conséquences sur son mouvement ou sur son putting?
Et surtout, qu'est-ce que le maillet apporte par rapport à une lame en ce qui le concerne?
Alors, je vais commencer par cette question. Il y a ce qu'on appelle un MOI, on va dire le mouvement d'inertie qui est plus important. Je veux perdre personne, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Je dirais que pour résumer, le maillet est beaucoup plus tolérant que la lame. Donc ça, c'est la première des choses. Il est plus tolérant. On peut en parler, je pense. Le maillet qu'il utilise, c'est le Spider de Taylor, son équipementier, qui en plus de ça a un insert qui est très différent, plus mou, qui a en plus une aide à l'alignement beaucoup plus importante. Donc c'est vraiment un putter. Je dirais, si on fait le comparatif, j'aime pas faire ça, mais entre la lame Scotty Cameron qu'il a eu l'habitude de jouer et le Spider de Taylor, on est vraiment sur un écart complètement important, sur un putter avec une aide très très importante à la visée, un MOI important, donc une tolérance importante. Et de l'autre côté, on a Scotty Cameron qui est la lame, je dirais, la plus pure, avec une tolérance au niveau de l'impact qui est très faible, un moment d'inertie qui est très faible. Donc tout ça fait que on est sur deux extrêmes et qu'il a préféré aller dans quelque chose de beaucoup plus tolérant. Et ensuite, si on parle du mouvement, avec Phil Kenyon, ils ont énormément travaillé la posture pour avoir plus d'angle, d'avoir plus de connexion au niveau des avant-bras et d'avoir quelque chose avec un putter qui bouge un peu plus en arc, avec un peu plus d'ouverture et de fermeture de face de club. Et pour ça, le maillet aide énormément. Donc, je dirais que il y a eu beaucoup de travail sur la technique. Il peut être avec un miroir quasiment toutes ses séances d'entraînement. Pourquoi un miroir? Pour être sûr que ses yeux sont au-dessus de la balle, que les yeux sont bien alignés, qu'il a plus d'angle en posture. C'est vraiment son outil, je dirais, numéro un. Et moi, j'ai passé pas mal de temps à Bayil à l'observer avec Phil Kenyon. Et honnêtement, ils font des choses extrêmement simples. Et ce qui est absolument hallucinant, et je vais, si vous me le permettez, switcher un peu sur le grand jeu tout de suite, ce qui est absolument hallucinant sur Scotty Scheffler, c'est que tout ce qu'il fait quand il travaille, c'est des choses qui sont extrêmement simples. Et avec une chose que j'ai vraiment envie de dire aujourd'hui, c'est que son outil, donc pour putter, son outil numéro un, c'est un miroir pour être sûr que ses yeux sont au-dessus de la balle et bien alignés. Je dirais un des fondamentaux au putting, quelque chose dont on a tous entendu parler, il faut avoir les yeux au-dessus de la balle, principalement cet œil gauche, et c'est vraiment quasiment sa priorité pour être sûr qu'il a plus d'angle. Et pour le grand jeu, l'outil qu'il utilise tous les jours, c'est un club avec un grip moulé pour être sûr que son grip est bon. Scotty Scheffler, il a une vigilance sur la manière dont il se tient un club qui est complètement hallucinante. Et j'ai vraiment envie de le dire parce que on pourrait penser que ces joueurs professionnels, ils vont chercher des choses extrêmement compliquées. Scotty Scheffler, il est numéro un mondial, il éclate. Excusez-moi du terme, tout le monde en ce moment, mais c'est le terme qu'il faut utiliser, je pense. Et il fait des choses super simples. Je vous dis, au practice, il est hyper vigilant sur son grip. Il a un grip moulé pour être sûr que ses mains soient parfaitement placées, soient les plus neutres possibles. Il tape des balles avec ce club. Et dès l'instant où il retire ce club et qu'il prend son club à lui au practice, il est très vigilant sur le placement de ses mains pour être sûr d'avoir un grip neutre. Donc, je trouve ça assez intéressant de voir que ce joueur qui survole le golf mondial en ce moment, bah, il fait des choses très simples, rien de révolutionnaire, mais par contre, il est extrêmement précis dans tout ce qu'il fait.
Pour terminer, Guillaume, on va voir une swing séquence que vous aviez faite il y a 2 ans après sa victoire au Masters. C'est toujours le même swing pour Scotty. Tout ce que vous avez dit il y a 2 ans est toujours valable aujourd'hui.
Oui, est toujours valable aujourd'hui. Je dirais que son bas du corps, par moment, bouge encore plus que ce que vous allez voir dans cette swing séquence. Et ce qu'il y a vraiment à mettre en avant, et ce qui est, j'utilise ce terme et je le pense hallucinant avec Scotty Scheffler, c'est que il a beau avoir ce bas du corps qui est complètement désarticulé, qui bouge complètement, son haut du corps est probablement le haut du corps le plus stable et qui bouge le mieux sur le PGA Tour, parce que je dirais, il n'y a pas de secret. Pour être précis, pour avoir cette précision qu'il a, et comme le disait Benjamin, pour être numéro un de toutes les stats du tee au green, il faut forcément, il n'y a pas de secret, que son club arrive exactement comme il le souhaite dans la balle. Et pour ça, bah, si son haut du corps bougeait dans tous les sens, il n'aurait pas cette précision qu'il a. Donc, malgré le fait que son bas du corps soit complètement désarticulé, j'ai envie de dire bouge complètement, il a un haut du corps qui bouge parfaitement et qui est très très stable. Et d'ailleurs, c'est drôle, c'est que Chris Comeau, qui est quand même plutôt un coach très 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 bon et très reconnu, il y a quelques jours a mis une vidéo sur Instagram en disant si on n'observe que le haut du corps de Scottie Scheffler, il n'y a rien à dire. C'est vraiment son bas du corps qui est hallucinant et qui nous fait dire mais comment il arrive à toucher cette balle. Donc c'est un petit peu c'est même complètement ce que j'avais mis en avant en 2012 sur cette swing séquence. Donc n'hésitez pas à regarder la qualité de son haut du corps, le mouvement de son haut du corps depuis le départ jusqu'au moment d'impact. Et vous allez voir que si on regarde que le bas, on se dit bah, il ne peut pas toucher la balle, mais si on regarde le haut, et le haut c'est quand même la partie qui tient le club, et bah, ça bouge très très bien et c'est pour ça qu'il est aussi fort.
Merci Guillaume, c'est toujours aussi passionnant. Je me demande si vous n'êtes pas encore un peu plus passionnant qu'avant depuis que vous êtes aux États-Unis. Ça doit être le côté américain, ça, Guillaume. En tout cas, merci d'avoir été aux Players pour nous et à très bientôt pour de nouvelles aventures américaines, Guillaume. Allez messieurs, sans plus tarder, on enchaîne tout de suite. On vient d'en parler de cette swing séquence. Et ben, on la regarde, elle date d'il y a 2 ans et c'est toujours le même Guillaume Biojo qui commente le swing de Scottie Scheffler.
Scottie Scheffler s'entraîne avec Randy Smith, un coach basé au Texas, qui est vraiment, vraiment un coach très proche des basiques. Et vous allez voir à quel point c'est justement intéressant. Et là où, malgré le fait que Scottie Scheffler ne soit pas le swing le plus traditionnel du PGA Tour, néanmoins, il y a certaines choses qui vont être intéressantes. La première des choses, c'est sa posture et son grip. Posture et grip sont traditionnels. Et pour la petite info, j'ai eu la chance de voir ce joueur au Players Championship il y a quelques semaines. Il s'entraîne au practice avec un club qui a un grip moulé, ce qui signifie qu'il accorde une importance énorme à la qualité de son grip. Ce club, il tape des dizaines de balles par jour pour être sûr que son grip est dans une position la plus neutre possible. Donc déjà, première information pour vous toutes et vous tous qui nous regardez, l'importance de la qualité d'avoir un bon grip. Je ne pourrai jamais insister assez sur cette importance. C'est la chose la plus importante dans votre swing. Et ce joueur-là qui a gagné le Masters travaille son grip tous les jours. Donc déjà, première information extrêmement intéressante. Ensuite, si on regarde son swing, on va commencer de profil. On peut constater un backswing plutôt neutre, un démarrage de swing plutôt neutre. On voit juste qu'en fin de backswing, il a tendance à avoir un coup de droit qui se déconnecte un petit peu et une face de club assez ouverte, là-haut en haut du backswing, ou assez orientée à droite. Tout à fait l'inverse d'un joueur comme Dustin Johnson, par exemple, où on a pas mal de joueurs en ce moment qui ont une face de club plutôt fermée. Le golf moderne, normalement, c'est une face de club un tout petit peu fermée en haut du backswing, là, une face de club ouverte. Très intéressant. Et si on regarde au retour, sur son, ce qu'on appelle son downswing, c'est là où c'est extrêmement intéressant. Je vais mettre en bleu une ligne qui arrive au bout de ses pieds. Qu'est-ce qu'on constate au moment d'impact et après l'impact? C'est hallucinant. Ses deux pieds, certes, sautent, mais se retirent du sol et se déplacent en arrière. Et ça, c'est vraiment ce dont tout le monde parle en ce moment, c'est cette position de pied qui s'est décalée en arrière. Et beaucoup de gens viennent me voir en disant « Waouh, danger !» Non, pas danger. Déjà, la première des choses, pas mal de joueurs ont cette tendance à sauter à l'impact. On pense à un Justin Thomas, on pense à un Bubba Watson. Mais eux, néanmoins, quand ils sautent, ils ont tendance à sauter sur la pointe des pieds à revenir au même endroit. Lui, Scottie Scheffler, ses pieds se décalent. Mais si vous regardez la vidéo, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a que ses pieds qui se décalent. Si on regarde à partir d'ici, au niveau de sa tête, je vais mettre ça en rouge, on va voir que le haut du corps, lui, est assez stable, qu'il reste à la même distance de la balle. Et on voit que son club, si le haut du corps est assez stable, son club revient parfaitement dans la bonne position. On voit que la balle est parfaitement centrée sur ce coup-là. Donc, ok, certes, ses pieds se décalent, mais son haut du corps, lui, tourne dans une position qui est très, très, très classique si on regarde de profil. On va se concentrer maintenant sur l'image de droite. Et en l'occurrence, sur la vue de face, là aussi, la position est plutôt classique, le grip, la posture. Et jusque-là, tout est plutôt naturel. Ce qui, à partir d'ici, l'est un tout petit peu moins, c'est la bascule dans laquelle Scottie Scheffler va être à la fin du backswing. On voit qu'il vient vite à gauche, on le voit par rapport à ce carré, et sa tête avance énormément. Ce qui n'est, avec un driver, pas tout à fait recommandé dans la mesure où on veut prendre la balle en remontant. Ce qui fait qu'au dernier moment, pour replacer son club, il a tendance à se cambrer un petit peu en arrière, à rajouter ce qu'on appelle du side bend, c'est-à-dire à avoir ici une colonne vertébrale qui va être très inclinée au moment d'impact. Et avoir des pieds là aussi, comme de face, si on met un trait au niveau de chaque pied, qui vont énormément bouger. Principalement le pied droit qui va se décaler et glisser, et le pied gauche qui vient complètement sur l'extérieur du pied et sur le talon. Qu'est-ce que je vous conseille de faire et de ne pas faire par rapport à ce qu'on vient voir? La première des choses, comme je le disais, Scottie Scheffler a des bases très solides. Je me répète, il vérifie son grip tous les jours. Sa posture est très neutre. Donc ça, c'est très, très important. Et je veux que vous gardiez ça en tête. Les basiques sont complètement respectées chez ce joueur. Après, pour être tout à fait honnête, contrairement à 95% des analyses de swing que j'ai la chance de faire pour le Journal du Golf, je vous donne toujours un conseil sur le swing. Chez Scottie Scheffler, attention. Je me répète, comme lui, respectez vos bases. Après, au niveau du swing, il a cette tendance à être un tout petit peu en bascule à la fin du backswing, avoir une phase de club un peu ouverte, être dans cette position-là, et au dernier moment, cette tendance à se replacer en arrière, à se re-sidebender en arrière et à réaliser, qui peuvent être un peu douloureux pour le corps. Donc attention à ça. Néanmoins, les deux points, et je me répète et je me répéterai s'il le faut, les basiques. Et la deuxième chose, sans tomber dans l'excès de Scottie Scheffler, de bouger vos pieds de manière extrêmement importante et de les décaler vers l'arrière, laissez votre bas du corps actif. Autorisez-vous à bouger vos pieds, à les laisser faire. Retirez-vous de l'esprit que vous devez avoir les deux pieds au sol et d'être extrêmement stable au moment d'impact. Autrement, vous allez être complètement bloqué et verrouillé. Des très très bons joueurs en ce moment, quasiment tous les joueurs se laissent aller avec le bas du corps. Je me répète, bon, on le voit chez Scottie Scheffler de manière très très importante. Justin Thomas, qui n'a pas le physique le plus impressionnant, mais qui envoie la balle très loin, Bubba Watson, tous ces joueurs assez puissants laissent le bas du corps jouer et laissent les pieds, même le pied gauche, de manière naturelle, bouger, se relever, comme si vous lanciez une balle à la main. Scottie Scheffler, on le voit, le pied gauche, c'est comme s'il lançait une balle très fort, ça se décale. Donc sans tomber dans ses excès, trois points, grip, posture, laissez le bas du corps faire. Laissez vos pieds faire.
Alors messieurs, c'est enfin à nous. Scottie Scheffler, il gagne la semaine dernière, il regagne cette semaine, il putte pas très bien, il est blessé le vendredi au bord de l'abandon. C'est le nouveau boss du golf mondial sans aucune hésitation. Il est parti pour régner. J'ai demandé à Guillaume Biojo, vous en pensez quoi? Il va régner, Scottie Scheffler?
Alors déjà, il est parti pour régner. Je crois que ça fait 78 semaines qu'il est numéro un mondial au total.
Vous avez une réponse au quiz déjà, Romain.
Ah zut, voilà. Et il l'est sans discontinuer depuis le 28 mai 2023. Donc qu'il soit le boss du golf mondial, c'est pas une surprise.
On le savait déjà.
Voilà. Il est effectivement intouchable. Voilà, il a des stats de folie. On va pas revenir là-dessus. C'est top 10, c'est top 3, c'est top 5.
Si, on va y revenir.
Il est tout le temps présent. C'est une
Benjamin,
certitude.
Essayez pas de tricher. Ah ouais. Là.
Quelle tricheur, je suis très Benjamin, myope. Hein.
Après maintenant, je pense que comme tous les grands de tous les sports, et notamment de ces sports individuels où on écrit l'histoire, sa place maintenant elle est tout en haut au niveau du palmarès en majeur. Et là, quand on regarde le palmarès des majeurs,
il m'a bousillé tout mon swing, c'est pas tout mon quiz, c'est pas possible.
C'est forcément moins reluisant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend? C'est qu'on attend, c'est qu'il gagne au moins deux majeurs par saison avec ce qu'il a dans le sac.
Au moins.
Oui, parce que je suis désolé, quand on domine le golf,
c'est pas Marc Omera non plus, hein.
Ou Padre Harrington.
Ouais. Non, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on domine le golf à ce point-là, il faut pas se contenter de gagner le player. C'est super de gagner le player, c'est fantastique. Mais je pense que Roger Federer ou Rafael Nadal, qui sont des monstres dans leur sport individuel, eux, ils comptent les majeurs et ils comptent pas forcément le nombre de victoires à Miami, Indian Wells ou même au Masters. Ça fait partie de l'histoire, c'est très important. Mais là, en ce qui concerne Scheffler, vu le niveau qu'il a atteint, vu ce qu'il est capable de faire, on l'attend au tournant dès dans 3 semaines à Augusta. Et un mois plus tard, sur les US Open et USPGA et au British Open cet été. Et pourquoi pas aux Jeux Olympiques? Voilà. Et pourquoi pas le Grand Chelem? Il faut viser très haut quand on a un joueur de ce calibre-là, je pense.
Alors, Romain, pour rebondir sur ce que vous dites, il y a un excellent podcast en anglais, hein, No Laying Up, nos amis anglophones ou ceux qui peuvent écouter en anglais.
Il est sous-titré, le podcast?
Non, il n'est pas sous-titré. Je vous le conseille. Il y avait un des intervenants qui disait que justement, le problème pour Scheffler, là, c'était que tout le monde allait attendre des victoires en majeur et que s'il en gagne aucun cette année, bah, la pression, elle allait augmenter l'année prochaine. Donc, ça rejoint un peu ce que vous dites, Romain. On l'attend vraiment en majeur. Benjamin, Scotty Scheffler, le règne, les majeurs?
Moi, ce que j'aime, c'est chez Scotty Scheffler, c'est sa capacité à aller chercher des drapeaux avec n'importe quel club. C'est-à-dire qu'il a, c'est un joueur, quand je le regarde sur le PGA Tour, sur les majeurs, c'est qu'il a plein d'options depuis le départ. Il peut jouer des longs fers, le driver ou les boîtes fairway. De toute façon, on va dire en exagérant à peine, du fer 3 au sand wedge, il est capable de planter le drapeau. Donc il est capable de se donner plein d'options sur plein de styles de parcours différents. Donc ça c'est hyper bon signe. Et puis bon, bah on l'a dit et Guillaume l'a redit avec un putter maillé qui semble lui convenir. On va voir sur plusieurs tournois. C'est maintenant qu'il trouve la cible sur les greens, qui retrouve la cible parce qu'il peut être très bien il y a 2-3 ans, enfin il y a 2 ans avec un putter Scotty Cameron, hein, donc peu importe l'engin, il a juste retrouvé un petit peu de confiance. Mais c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est Scheffler, selon moi, c'est cet arsenal qu'il a dans le sac. Il est très bon vraiment de 220 mètres jusqu'à 20 mètres du green, quoi. Ça c'est hyper intéressant, quoi.
Romain?
Je peux apporter un petit bémol peut-être, parce que on va pas faire autre chose que glorifier un numéro 1 mondial qui vient de gagner.
On vient au secours de la victoire là.
Non, mais il vient de gagner 2 tournois d'affilée, c'est super, et effectivement il a regagné parce qu'il est quand même resté 1 an moins une semaine sans gagner, donc ça faut le noter aussi, parce que c'est bien beau de faire des top 3.
Il peut-être pas.
Voilà, mais bon, donc tout.
Ce qui n'est pas grand-chose à l'échelle du golf, hein, 1 an sans victoire au final.
Non, c'est rien.
Certes, mais aujourd'hui, je pense que on peut le mesurer à l'aune d'un Tiger Woods.
Voilà. On va y venir.
Bon, j'apporte juste un petit bémol quand même. C'est la faillite de ses concurrents, de ses adversaires. Pour gagner un tournoi comme le Players, et il l'a prouvé, il faut être très fort le dimanche. Il l'a été, il envoie un 64. C'est magnifique, c'est somptueux. Il n'y a rien à dire. Il a 5 coups de retard le dimanche matin. Ce qu'il fait est exceptionnel. Mais quelle déception en face, quelle déception de Schauffele. Schauffele qui fait son premier bogey dès le trou numéro 1 de la semaine, le dernier jour. Schauffele qui est le joueur qui rate tous ses dimanches, je caricature à peine, les grands tournois. Je suis désolé, mais Schauffele, il a 5 coups d'avance le dernier jour, jamais il doit laisser passer la victoire. Donc, il faut, pour être un vainqueur du Players comme ça et être un numéro mondial, avoir tout le talent, tous les coups dans le sac, on est d'accord. Mais il faut aussi avoir un peu de chance. Et je pense que la chance, il l'a eu plus que n'importe qui sur ce dernier jour. Parce qu'en face, ça a été un effondrement. Et même Harman et même Clark, qui n'ont pas été mauvais, ils ont été en dessous de ce qu'ils ont été avant. Lui, il sait, Scheffler, mieux que quiconque, qu'un tournoi se gagne le dimanche et pas du jeudi au samedi. Les autres l'ont appris à leurs dépens.
Alors,
vous n'êtes pas d'accord? J'ai l'impression de parler dans le vent.
Évidemment que on vous laisse. Vous avez bien raison. Non, mais je croyais que vous vouliez parler de son charisme. C'était ça.
Non, le charisme, c'est autre chose. Je pense qu'il est en train d'en gagner un petit peu par ses prises de position. Il a dit quelques mots à propos des dissidents et des absents du PGA Tour. Il commence à prendre un peu. Voilà, l'épaisseur, le costard du patron du golf mondial.
Il y va tranquillement.
Tranquillement.
On dirait qu'il va se baigner dans la Manche au mois de mai, quoi. C'est vraiment, c'est orteil par orteil. Mais quand on le voit en vrai, Scotty Scheffler, j'ai la chance de le croiser, donc à quelques centimètres comme toi, Romain. Il est beaucoup plus impressionnant en vrai qu'à la télé. C'est assez impalpable, évidemment. Mais quand on le voit, déjà, c'est quand même une sacrée carrure. Il fait un petit peu plus d'un mètre 80, un peu plus d'un mètre 90, un peu plus de 90 kilos. Il dégage quand même quelque chose. C'est pas Tiger, on est d'accord. Mais à voir en vrai, Scheffler, vous le verrez aux Jeux Olympiques. Si vous y êtes, messieurs, au golf national, c'est quand même quelque chose.
Un peu gendre idéal, bon, voilà. Ouais. Mais il en faut aussi.
Alors, un peu Tiger, on n'arrête pas de tourner autour. Donc, il a. Vous savez combien de points d'avance il a au classement mondial, Scotty Scheffler, sur le deuxième?
C'est énorme. C'est pas la plus grosse avance depuis plusieurs années?
Je ne suis pas mathématicien.
Ouais, il a plus de 4,4 points d'avance, enfin 4,3 et quelques de points d'avance. Depuis quand, c'est quand qui avait eu une avance plus grande?
Tiger Woods.
Non, il y a eu un certain Dustin Johnson avant en 2017. Et avant Dustin Johnson, il y a eu qui? Il y a eu Rory McIlroy en 2015. Mais bon, Tiger, vous, la plus grosse avance de Tiger, vous savez combien c'est?
Ah, c'était bien plus, c'était à deux chiffres.
C'était 22 points d'avance pour Tiger, bien. Combien de victoires pour Tiger sur le PGA Tour?
83?
Non, 82.
Merci Romain, vous avez... Benjamin nous a mis la honte devant la France entière.
Je suis que le livre.
Combien pour Scotty?
8. 20.
Bien, il a bossé ses fiches. Benjamin, vous êtes foutu. Combien de players pour Tiger?
2. 2001,
très
2013.
Peu, ouais.
Et pour...
ouais.
Oh là 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 là. Et pour Scotty?
Bah 2.
Voilà, bien.
Les deux derniers.
Combien de semaines en tête alors, vous disiez, pour Scotty?
78.
Et pour Tiger?
651. 52. 53.
Bon, je vais vous laisser.
683, ah, le avec les oui, avec la série de Kyoto, c'est le chiffre le plus important ou le plus intéressant. Bon, bref. Et alors donc, la comparaison surtout du tee au green, la plus belle moyenne de coups
de
gagnés
score.
Du tee au green du
tee au green. Gain.
Ouais, un stroke gain depuis 2004 que c'est qui a la plus grosse moyenne et quand?
Plus 7, non?
Non, plus 2,98 pour Tiger en 2006. Deuxième,
je suis incapable de dire.
Scotty Scheffler en 2024, 2,83. Troisième, Scotty Scheffler 2,74 en 2023. Et quatrième, Tiger 2,37 en 2007. Donc on est quand même les quatre plus grosses moyennes de l'histoire. C'est Tiger, Scotty, Tiger. Et on voit bien que l'année dernière, il était le meilleur du tee au green déjà de très loin, puisque c'était comparable à Tiger, c'était la deuxième moyenne de l'histoire. Mais sauf qu'il ne mettait pas un putt. Là, il met des potes, donc il est parti pour durer.
Ça confirme qu'il est l'heure aujourd'hui de le mesurer à l'aune de Tiger et donc d'exiger de lui, entre guillemets d'exiger, on n'est pas exigeant, il fait ce qu'il veut, mais d'attendre de lui qu'il gagne un, voire deux grands chelems dans l'année, voire plus dans la saison. Parce que c'est là qu'on l'attend, parce que voilà, maintenant c'est ici que s'écrit l'histoire. Demandez à Brooks Koepka ce qu'il en pense. Lui, il a 5 majeurs et il ne jure que par les majeurs. Et je pense que il regarde Scotty Scheffler d'en haut, tout numéro mondial qu'il est. Et même si étant sur le livre, il va quitter les sommets du golf mondial au classement, il s'en fout. Lui, à la fin du bal, il veut avoir le plus de majeurs possible. Et je n'entends pas suffisamment Scheffler dans ses prises de position mettre l'accent. Ou dans ses prises de parole, mettre l'accent sur l'importance de gagner les majeurs.
Bah, il a bien raison.
Peut-être qu'on l'écoute pas assez dans ses prises de position, si
ouais,
on lui demande pas beaucoup son avis, parce que ça intéresse pas encore suffisamment. Bah,
déjà, tout le monde va aller au Masters, tout le monde va le saouler. Il est, la cote pour Scheffler qui gagne un majeur cette année.
5 contre 1 à
ouais,
Augusta, c'est descendu à 5.
5
ouais.
contre 1 chez Bookies.
Non, mais surtout
les autres. Le deuxième est à 10 contre 1.
Non, mais un des 4 cette année, je sais plus. C'est en dessous de 2 contre 1, je sais plus. Mais c'est hallucinant sur le fait qu'il gagne un majeur cette année. Donc la pression, tout le monde va lui mettre. Donc de toute façon, moi je trouve qu'il a bien raison de ne pas en parler. Bon, allez, pour terminer sur le quiz, on va se recentrer sur Scotty Scheffler.
C'est pas une question facile un peu.
Il a fait 51 départs depuis 2022. Depuis le 1er janvier 2022, combien de victoires? Combien de victoires?
4.
Non, depuis 2022.
Depuis, ouais,
ah,
depuis 22, le 1er janvier.
6.
J'aime bien parce que Benjamin, il y croit à chaque fois, mais il n'a pas bon. Non, mais je pensais que vous alliez dire 8.
Il en gagne 4.
Mais non, mais il en a 9 parce qu'il a gagné le
Hero
World Challenge.
Ah,
oui, voilà, voilà.
C'est bidon, ça.
Non, non, il n'avait pas gagné avant le 1er janvier 2022. Benjamin.
Non, mais il en gagne 4 en 2022.
Bon,
on est d'accord.
Si vous voyez Jean-Philippe Rodenburger, vous ne direz plus jamais invité Benjamin Cadieu au podcast.
Il est mort de rire à la
quiz,
Réal.
C'est pas possible. Bon, bref, combien de 4 ratés sur ces 51 tournois? Benjamin, au hasard, vous pouvez avoir bon.
Je dirais 4.
Presque 3. Ouais. Combien de top 10?
Beaucoup.
Bah, déjà, les top 10, je crois que sur les 30 derniers tournois,
je
il y en a 23.
22.
34, dont 5 en majeur. Ouais. Combien de top 3 sur ces 51 tournois?
Je dirais 22.
Il a vu mes fiches. Non, Benjamin, c'est pas bien, vous avez
non,
vu
non,
mes
non,
fiches.
C'est trop loin,
allez,
il y a le mug.
Pour terminer, 123 tours dans les 60 et 540 en dessous du par depuis le 1er janvier 2022. Et combien de millions de dollars de gains?
Je sais pas, mais il en a pris 8,5 en 15 jours. Ouais. Donc,
46 millions de gains en tournoi depuis
son
le 1er janvier.
Son caddie a pris 895 000 dollars en deux tournois.
Ouais, et ouais. Son caddie, c'est un peu comme le caddie de Woods à l'époque. Qui était
Steve
le,
Williams.
Il a pris 15 000 dollars par coup frappé au player.
Ouais, qui était le
sur les deux Bale players.
Ouais, Steve Williams était le sportif le mieux payé de Nouvelle-Zélande à l'époque de Tiger Woods, devant les All Blacks. Allez, pour terminer, on a parlé des Masters, on a parlé des majeurs. on a quand même entendu, écouté Yann Rahm qui disait qu'il avait regardé le Players et qu'il n'arrêtait pas de regarder le PGA Tour. Je pense qu'il doit quand même un peu se mordre,
non, parce les doigts. Je pense et qu'après, il regarde son compte en banque et ça doit bien se passer.
Ouais, mais enfin, quand même, il doit attendre le Masters avec impatience, notre ami Yann, et son menu typiquement espagnol.
Typiquement basque, oui, bah effectivement, je pense que. Mais il n'est pas le seul à attendre le Masters. En fait, il y a quand même un truc qui est magique dans cette scission entre le Live et le PGA Tour, c'est que quand tous ces joueurs sont réunis sur un majeur, et notamment le Masters, bah ça événementialise d'autant plus et ça donne encore plus d'appétit. C'est-à-dire que le Masters ne sera pas un bis repetita du Players, ou le Players n'est pas un avant-goût du Masters. Le Masters sera unique dans ce début de saison parce qu'il va réunir la crème du sport.
On part à zéro, la saison démarre là, quoi.
Et voilà. Et du coup, ils en tirent quelques bénéfices, mine de rien, les majeurs, parce qu'ils sont le rendez-vous d'exception du golf mondial, plus encore qu'avant. Et c'est là où on salive déjà. Moi, c'est dans 3 semaines. Je compte les jours. Je mets des encoches sur le mur.
Et là, vous avez les 2 envoyés spéciaux, hein, Journal du Golf et l'équipe qui seront. Quoi.
Ça va être fantastique. On va kiffer, franchement. Ça peut pas être plus beau, cette attente de revoir.
Encore une fois, le petit bémol, c'est qu'il va en manquer quelques-uns des meilleurs joueurs du monde, puisqu'ils ne seront pas.
Niemann a été invité. Joachim Niemann du Live a été invité par
le petit Masters. Le petit bémol est là quand même. On aimerait vraiment que tous les meilleurs joueurs du Live, mais bon, là, c'est encore autre chose. On a vu qu'à Bahamas, apparemment, ça a parlé. Tiger, Al Roumayan.
Tous les jets privés sont atterri chez.
Bien le bilan carbone.
Pas mal.
Aucune info. Même Seb Oudou n'a pas d'info. Donc, messieurs, vous avez une idée de ce qui s'est dit, de ce qui. Non, rien du tout. Vous n'avez
ça
rien
parle,
vu. Fuiter.
Ça parle de rapprochement. Ils vont bien finir par trouver une solution. Mais.
Mais quand
le problème, c'est qu'il y a toujours ce problème de Sénat américain qui n'est pas réglé. Tant que vous avez le Sénat américain contre vous, pour faire un rapprochement avec, commercial avec l'Arabie Saoudite, ça paraît compliqué. Mais bon, ils vont bien finir par trouver un terrain d'entente. Quand on a l'argent et qu'on veut l'investir, on va finir par ouvrir les vannes, quoi. Mais.
Allez, Romain, justement, allez, pour terminer, parce qu'on va pas parler géopolitique, argent et tout ça, mais dans le tennis aussi, ça a frémi la semaine dernière avec les Saoudiens.
C'est pas fini. Il y a des gros rendez-vous cette semaine à Miami pour une décision, on imagine, aux alentours de Madrid. Ça veut dire que là aussi, c'est un chamboulement. Là aussi, c'est le chaos. Et là aussi, il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de discussions. Et que malheureusement, dans le tennis, les joueurs sont un peu absents de ces discussions. J'ai quand même le sentiment que dans le golf, les joueurs se prennent en main et ils ont porté leur voix.
Ils n'ont pas aimé ce qui s'est passé en juin, donc voilà, ils interviennent.
Donc voilà, maintenant il faut être patient, il faut attendre. Moi, j'ai l'impression qu'on part de très très loin toujours, mais la fumée blanche finira bien par sortir et on verra à ce moment-là ce qu'il en est. En attendant, moi, ce qui m'intéresse, c'est le sport, le golf, le jeu. Et encore une fois, je leur dis, le Masters va être un tournoi d'exception. On a oublié de mentionner Mathieu Pavon qui sera dans le champ.
Et ça
nous fait oublier quelques joueurs du Live qui pourraient y être et qui n'y sont pas à cause du classement mondial. On les oubliera très vite quand on verra Mathieu Pavon driver au 1.
Tant pis pour eux. Allez, on ferme cette page golf masculin, en tout cas PGA Tour, et on passe au LPGA, diffusé donc à présent sur Journal du Golf TV cette semaine. Au programme, le Série PAC LA Open, j'y arrive sur le parcours de Palos Verdes en Californie à partir de 23h jeudi soir, et dimanche ce sera un peu plus tôt, 20h, 23h dimanche pour la conclusion de ce tournoi. Pas de Céline Boutier, malheureusement, elle nous avait régalé la semaine dernière en Chine, mais elle ne sera pas là, elle se repose. En revanche, Perrine Delacour sera présente en compagnie d'Agathe Lenné, donc deux Françaises. On espère qu'elles joueront bien et qu'on les verra à l'antenne. Mais même sans Céline Boutier, il y a quand même un très joli plateau, avec notamment Ruan Ingin, la tenante du titre, Lilia Vu, la numéro 1 mondiale évidemment, Alison Corpus, Nelly Korda, Lynn Grant, Ayaka Furue, Brooke Anderson, Rose Tseng, Paula Krimer et plein d'autres évidemment. Toutes les meilleures joueuses du monde sont sur Journal du Golf TV, toutes les semaines ou presque. Je vous le dis à nouveau, rendez-vous jeudi 23h en compagnie de l'immense Benjamin Cadieu et du très très bon Eric Douenel, président de PG à France. Pour terminer cette page féminine, messieurs, justement.
Un quiz ?
Non, pas de quiz. Non, pas de quiz. C'est bon, vous avez été tellement remarquable, Benjamin, qu'on va arrêter là. En revanche, une épreuve mixte au JO, ça, on a vu sortir l'info mardi. Bonne nouvelle.
On a vu ça sur Golf Channel. Tout le monde l'a vu. Ça pourrait être annoncé au Masters prochain. Donc, une épreuve mixte en 4 balles ou en foursome qui compléterait une épreuve sur 3 tours en individuel. Donc, il y aurait. si je dis pas de bêtises, 2 médailles olympiques voilà. par catégorie.
Toujours le simple homme et simple femme.
Simple homme, simple dame.
Et puis après, l'épreuve mixte, où apparemment il y aurait un double le premier jour. Et deux simples, un homme d'un côté et une femme de l'autre. Et on additionnerait les 3 scores en stroke play.
Ce serait pour 2028.
Ce serait pour 2028, Los Angeles. Donc forcément, les Américains ont dû pousser un peu pour faire une épreuve de plus au golf. On sait que c'est le pays numéro 1 au monde et par les pratiquants.
Donc toujours
et par
pas
les
de
résultats,
match play.
Quoi. Et pour l'instant,
pas de match play dans les tuyaux.
Et pour l'instant, toujours pas de match play. Pour terminer cette émission passionnante et complète, Benjamin, vous avez eu votre chouchou, Oyan Guillamundegui.
Je l'aime bien. Non, il a premier top 5 en carrière, ça se met enfin en place. Faut reconnaître qu'il est quand même très jeune. Il a 19 ans, Oyan Guillamundegui. Il est passé pro à 17 ans. Il avait signé des super cartes sur le Alps Tour, sur la 3e division européenne. Il est monté grâce à un top 5 de la saison régulière. Il va pas jouer énormément de tournois sur le Challenge Tour. Il a une catégorie 12B. C'est pas foufou, mais c'est en signant des top 5 comme ça qu'il va réussir à, pourquoi pas, on va peut-être pas parler de montée dès cette année, ou en tout cas dès le mois de mars, mais il y a des bonnes choses chez lui, le putting se met en place, il swing très vite, on le savait déjà, et puis il a toujours cette fraîcheur, et c'est toujours un plaisir de parler, de tourner des séquences avec lui, que ce soit pour du matériel, faire des crèmes renversées.
Je vous conseille la crème renversée, Oyan Guillamundegui
et
Hugo Cousseau, elle est absolument, on a l'impression que ça a été écrit pour du cinéma, mais ouais. Non, c'est vraiment...
Il y a une crème renversée,
voilà.
Même deux,
donc,
sur YouTube, on la retrouve.
Allez, on écoute Oyan Guillamundegui que Benjamin a joint quelques minutes avant l'enregistrement de cette émission.
Salut Oyan.
Salut Ben, ça va?
Bon, on imagine que pour toi ça va très bien. Tu es de retour d'Inde avec ton premier top 5 en carrière sur le Challenge Tour. On imagine que tout va bien, le sourire est revenu après quelques cuts ratés.
Ouais, non, franchement, c'est vraiment cool. Je suis vraiment content. Ça fait vraiment plaisir, voilà, de faire un top 5 et mon meilleur résultat en carrière. Après, voilà, faut pas s'arrêter sur ça, hein. C'est super, mais faut continuer. Et au contraire, faut s'en servir comme trampoline pour rebondir et aller de l'avant.
Donc un tournoi, c'était à New Delhi en Inde, un tournoi très particulier, un pays que tu découvrais. C'est une étape hyper particulière dans la saison, que ce soit Challenge Tour, European Tour. Dans un pays très particulier. Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure?
Ouais, c'est sûr, c'est très particulier, c'est très pauvre. Faut faire vraiment attention à tout, que ce soit dans la rue ou surtout en alimentation, parce que il faut essayer de pas tomber malade. Donc, faut vraiment être vigilant avec ça. Mais sinon, on a joué un super parcours. Puis le tournoi était vraiment bien organisé, donc c'était vraiment top.
4 cartes sous les 70, ça t'est pas arrivé souvent, c'est même, je pense, la première fois à ce niveau-là, en tout cas sur le Challenge Tour, que tu as rejoint cette année. Ton jeu va beaucoup mieux, on dirait, ça a l'air beaucoup plus constant, quoi. Notamment le putting, je crois.
Ouais, c'est vrai que c'était vachement constant cette semaine. J'ai quand même beaucoup bossé cet hiver, puis je suis parti en Afrique du Sud avec beaucoup d'attentes, parce que c'était vraiment mon premier gros hiver. Je suis un peu tombé de haut parce que je jouais pas si mal, mais j'ai vachement eu du mal avec tout ce qui était l'herbe, le vent, la stratégie. J'ai pas réussi à tout manier pour que la boule elle prenne bien, quoi. Donc c'était un peu compliqué en Afrique du Sud. Donc je suis rentré, j'ai eu des petits soucis au chipping en Afrique du Sud, donc j'ai changé de rebond sur le wedge et ça allait beaucoup mieux. Et ouais, non, franchement, ça fait plaisir de voir que le travail paye, enfin commence à payer. Et de voir que voilà, je peux être devant pendant 4 jours sur le Challenge Tour et jouer la gagne.
On le rappelle, tu es pro seulement depuis fin 2022, tu as seulement 19 ans. Et comme tu dis, le métier rentre, des histoires de s'adapter au gazon, s'adapter avec le bounce du sand wedge, le matériel, la vie, etc. Qui t'aide sur le circuit pour prendre de la bouteille le plus vite possible?
Ben, on s'aide un peu tous. Après, c'est les gars qui sont un peu plus anciens à qui j'aime bien me confier, à poser pas mal de questions, notamment Benny. Voilà, Benny, on s'entend super
Benjamin
bien.
Benjamin Hébert.
Ouais, Benny Hébert, on s'entend vraiment bien. Puis, je sais que je peux me confier avec lui et que voilà, il sera toujours de bons conseils. Ensuite, voilà, tous les mecs comme Alex, Alex, il a gagné 5 fois sur le tour, donc je
Alexander
sais que quand
Lévy.
j'ai, voilà, donc je sais que quand j'ai des questions, tu vois, j'ai chippé un peu avec lui en Afrique du Sud parce que j'avais vraiment du mal. Puis ça a été le premier à m'expliquer un peu comment il faisait avec son expérience. Donc ils sont beaucoup, ils sont super super sympas et franchement, ça fait plaisir de voir qu'ils sont aussi là pour nous les jeunes, quoi.
Ça t'a rassuré de voir que l'ambiance était aussi bonne, voire meilleure que sur les autres divisions satellites où tu as performé comme le Alstom, de retrouver une famille française hyper bienveillante à ce niveau-là?
Ouais, franchement, ça fait du bien, tu vois, ça rigole pas mal, ça chambre. Puis on peut faire aussi des parties de recos ensemble, ce qu'on n'avait pas trop l'habitude de faire sur l'Alpe Tour. Donc franchement, c'est cool. Puis ça va nous tirer aussi un peu tous vers le haut, je pense, parce qu'il y a quand même beaucoup de bons joueurs français, donc c'est vraiment cool à ce niveau-là aussi.
Pour rappeler, tu as une catégorie 12B, c'est évidemment pas la meilleure. Tu viens du Alps Tour grâce à un top 5 sur la saison 2023. Comment ça va se passer ton calendrier? Parce que bah, la clé, c'est de jouer, mais c'est pas toujours évident selon les catégories de jeu.
Bon, c'était un peu compliqué là, début de saison. J'étais pas trop sûr de jouer, mais j'ai eu la Fédé qui, d'ailleurs, je les remercie, qui m'a filé 2 invites là en Afrique du Sud sur le deuxième et le troisième. Puis moi, je suis rentré dans le champ avec ma catégorie sur le quatrième tournoi, donc j'ai quand même pu avoir 3 starts en Afrique du Sud. Puis là, en Inde, le premier, je suis rentré avec ma catégorie Ric-Rac, mais je suis rentré, donc c'est cool. Après voilà, oui, comme tu dis, c'est pas forcément la meilleure des catégories, mais bon, on s'en contente. Mais je sais que en Europe, ça va rentrer partout. À partir d'Abu Dhabi, ça va rentrer partout. Donc c'est vraiment là où mon calendrier il est structuré. Je sais où je vais aller, je sais les tournois que je vais faire, où je vais breaker, et voilà, ça va être cool. Là, je reprends au Médoc dans 2 semaines et demie, un super tournoi. L'année dernière, j'avais vachement kiffé et parcours de ouf. Donc ouais, ça va être cool.
Je reviens un peu en arrière sur ce tournoi à New Delhi et ce chip qui rentre au 18. Là, c'est le petit bonus pour finir le tournoi sur un beau birdie. C'est aussi peut-être signe que les choses commencent à se mettre en place pour toi. Est-ce que tu peux nous faire revivre ce moment que tu as partagé un peu avec le public aussi
Mais non, franchement, ça fait plaisir de finir un tournoi comme ça. Je pense que j'avais jamais fini sur un chip-in, un tournoi. Donc franchement, c'est cool. J'ai vraiment bien joué toute la semaine et je sentais que le dernier jour, à l'aller, j'avais un peu de mal. Je prenais beaucoup de bords. Puis je suis resté très calme, je suis resté très confiant et j'ai continué, continué. De là, j'ai fait 4 birdies en 5-6 trous, donc c'était plutôt pas mal. Puis j'ai fait un vilain 3 putts au 16. Enfin, j'étais ma balle à glisser dans le rough. J'ai voulu putter. J'ai fait 3 putts et j'ai voulu aller chercher ce birdie au 18. J'ai mis un super drive. Puis j'étais entre deux clubs à la mise en jeu et j'avais, je crois, 2,50 au poteau et le drapeau au fond. J'ai mis un coup de bois 5 un peu à gauche et vent de la droite. Elle est partie un peu à gauche et là je me suis retrouvé dans la lèvre du bunker. Enfin, j'étais dans l'air mais vraiment enfoncé grave. Et franchement, je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, je vais essayer de faire un petit chip qui va tomber devant le green et au pire, il va venir mourir sur le green. J'ai fait un chip pas si mal, mais elle est restée dans le rough. Et là, j'ai mis le chip.
C'est génial, on t'a vu le lever la main, on a entendu des gens dans le public réagir, c'est des sensations que tu n'aurais pas pu vivre chez les amateurs. Tu le dis souvent, maintenant que je suis chez les pros, je kiffe encore plus ma passion du golf, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est des sensations qu'on adore vivre, surtout voilà pour clôturer un tournoi. Puis ouais, non, franchement, ça fait vraiment plaisir de finir un tournoi comme ça. Après, comme j'ai dit, il faut continuer, essayer de faire le plus de bonnes choses possibles, continuer comme je travaille à fond avec mon staff et on fera une bonne année, j'espère.
D'ici avril et la reprise du Challenge Tour, qu'est-ce que tu vas travailler au niveau technique, au niveau coup que tu dois ajouter dans le sac ou peaufiner et avec qui tu vas le travailler?
Alors j'ai eu PJ, Pierre-Jean Cassagne, qui me fait tous mes programmes d'entraînement et je putte avec lui aussi, on fait le putting ensemble. Puis bien sûr le druide René Darumerlou, coach, je les appelle souvent et là j'ai appelé PJ pour savoir ce que je devais un peu faire là en rentrant. En fait avec les stats on a remarqué que ben, mon putting c'était vachement mieux. C'était voilà. Ça a toujours été mon point faible. Et là, je commence vraiment à très bien putter, faire beaucoup moins de 3 putts qu'avant. Et à me rapprocher du plus 1, plus 1, 1,5 de stroke gain en moyenne par round. Donc, gagner des points au putting, c'est vraiment une petite victoire pour moi. Donc, il faut continuer à bosser le putting, à ancrer mon système. Et ensuite, je vais faire plutôt très bien. Donc, on va essayer de continuer dans cette dynamique avec mon coach René, pas trop faire de changements techniques, juste mécaniser le swing et taper le plus de balles possible en cherchant toujours le même swing et toujours une balle assez droite. Puis au driving, voilà, je sais que je dois travailler un peu au driving parce que ça a été mon point fort cette semaine en Inde et j'ai vraiment envie, je me suis vraiment rendu compte qu'en drivant bien, ça change énormément de choses. On va essayer de mettre un peu l'accélérateur là sur le driving, tout en bien sûr s'entraînant sur les autres compartiments du jeu, mais je pense qu'on va bosser beaucoup le driving pour voilà essayer de rater le moins de fairway possible parce que je sais que quand je drive bien en général je joue vraiment bien.
T'as toujours une super vitesse de club et de balle. T'en es où ouais, à ce niveau-là, si tu peux donner un petit chiffre pour nous faire un peu rêver, quoi.
Bah franchement ça va ouais surtout que quand la confiance elle vient au driving bah, ça va toujours un peu plus vite donc je pense que je dois être entre 118 et 119 sur le parcours non franchement je dois être à 270 de carry je devais être en Inde donc ça franchement c'est cool ça élimine pas mal de bunkers de fairway et tout ça sur le Challenge Tour donc c'est toujours bien.
C'est toujours un plaisir de te suivre. T'es aussi très actif sur les réseaux sociaux. On te retrouve souvent sur Journal du Golf TV. Comment dire, quelle place tu as sur le Challenge Tour, la famille française? T'es quasiment le plus jeune, même si il y a quand même pas mal de 109 avec Martin Kouvra notamment. Il y a du 109 hein, dans cette team, dans ce qu'on va appeler la Team France sur Challenge Tour. Hein.
Ouais, il y a du 109, ça fait vraiment plaisir de voir voilà tous ces jeunes qui montent et qui jouent vachement bien. Moi, je suis très cool, très détendu. J'ai la place un peu du mec qui rigole, qui fait rigoler, avec qui on peut se taper des barres et voilà faire des concours de chip et des concours de putt. Mais non, franchement, ouais, c'est cool de voir autant de voir par exemple Martin, même Max jouer vraiment bien sur le Challenge Tour, ça fait plaisir.
Ok, Oyan, comme tu l'as dit, on te retrouve un petit peu plus tard sur le Challenge Tour et on te félicite et on te souhaite une super fin de saison.
Merci beaucoup, ciao.
Allez, dans une interview avec notre excellent confrère de Golf Planet, Oyan Guillaume-Ndeghi, confie qu'il s'est vraiment mis au boulot cet hiver, notamment qu'il a planifié son entraînement. Il avait toujours été avec René Darrieux-Merloux, son coach à Osgore. Et maintenant à Seignos, son coach de toujours, mais il s'est mis également avec PJ Kassane qui lui fait de la programmation. Benjamin, on sait qu'il a un talent immense, Oyan, mais là on a vraiment
Bah, il
l'impression
faut
qu'il.
qu'il se structure. On l'a dit tout à l'heure, il avait passé pro à 17 ans. Où est-ce qu'on était à 17 ans, nous trois messieurs, c'était pas brillant. Et là, bah, il se structure. Et de toute façon, c'est quelqu'un qui communique beaucoup également, comme il le dit dans l'interview avec d'autres joueurs du clan français qui l'aident. Et il voit bien que même sur le Challenge Tour, si vous n'avez pas au minimum trois personnes pour vous aider, sans compter votre manager, ce n'est plus suffisant, donc il faut se structurer, il faut bosser et bosser bien.
Voilà, malheureusement, il ne sera pas en Inde cette semaine hein, pour le tournoi du Challenge Tour, puisqu'il a eu un problème familial, mais on le retrouvera très vite, et très vite pour de très bons résultats. Merci Romain Lefebvre, merci Benjamin
Toujours un
Cadieux
plaisir.
de m'avoir aidé à préparer et animer cette émission. Et merci également, surtout, à Jean-Philippe Rodenburger à la réalisation. Il sait
Il nous
décidément
manque.
tout faire, cet homme-là.
Il est excellent.